France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Souad Boukorsa, Martine Moni, Emmanuel Morse-Duncan et Olivier Déhay. Voici la cinquième et dernière émission consacrée à Désiré Émile Engelbrecht. Au lendemain de la rentrée de l'orchestre qu'il avait fondé en 1934, l'Orchestre National de France, que Yural Valtura dirigeait hier soir, ici même à Radio France, dans des leaders de Richard Strauss, avec la soprano Mia Person et la deuxième symphonie de Schumann, concert à retrouver sur francemusique.fr. Dernier hommage à Engel, aujourd'hui avec l'incontournable Claude Debussy, et un dernier extrait de son Pelléas et Mélisande, ainsi que la conclusion de La Mer. Nous entendrons également la Ma Merloi de Maurice Ravel, encore l'ouverture de Tannhäuser de Richard Wagner. Et pour commencer, voici le final de la symphonie sur un chant montagnard de Vincent d'Indy, autrement dit la symphonie Sevenol, avec l'Orchestre National et la pianiste Odette Gartenlaube.
Thank you.
Voilà un extrait d'archives de Lina. C'est un concert du 15 décembre 1955 dont nous écoutions un extrait. Concert lors duquel Désiré-Émile Engelbrecht et le National proposaient des extraits de Fidelio de Beethoven, une ouverture de Méhul, une nuit sur le Mont Chauve de Moussorgski, la suite Diane de Poitiers de Jacques Ibert, et puis cette symphonie Sevenol de Vincent d'Indy dont nous écoutions le troisième et dernier mouvement avec la pianiste Odette Gartenlob, dont le nom est familier à des générations d'élèves et de professeurs de solfège pour les méthodes qu'elle avait écrite, mais Odette Gartenlob était également pianiste, qu'on vient de l'entendre, élève de Marguerite Long, compositrice, élève d'Olivier Messiaen, avant d'être renvoyée du conservatoire en 1942 en raison de ses origines juives. Et après la guerre, eh bien, elle a obtenu en 1948 le prix de Rome de composition. Elle a été nommée au poste de professeur de conservatoire de Paris. Bref, une jolie carrière pour Odette Gartenlob qui se termine en 2014 à sa mort à l'âge de 92 ans. Alors je citais à l'instant ce programme assez original de Engelbrecht et de l'Orchestre National qui comportait notamment une partition de Jacques Ibert. Voici un autre extrait d'archives du 14 mars 1957 où les spectateurs ont pu entendre l'ouverture Andrea del Sarto de Daniel Lesure aux côtés de partitions beaucoup plus connues et de répertoires comme le concerto pour violon de Mendelssohn avec David Herlich, comme la mère de Claude Debussy qu'on écoutera, en tout cas on écoutera la fin en fin de cette émission. Et puis Wagner, Tannhäuser, l'ouverture de Tannhäuser dans la version parisienne. En 1845, Wagner avait proposé une première version de son Tannhäuser avec un prélude, une ouverture assez brève, assez classique. Et puis pour sa présentation en 1861 à l'Opéra de Paris, il avait fallu intégrer un ballet. C'est la rencontre de Tannhäuser et de Vénus qui est dans le Vénusberg. Voilà donc ce long passage, près de plus de 20 minutes de musique qui nous permet de retrouver une page importante de l'histoire de l'Orchestre National, 1957, avec à sa tête le fondateur Désiré-Émile Engelbrecht.
Thank you.
l'Orchestre national de l'ORTF et ces dames du chœur de l'ORTF dirigées par Désiré Émile Engelbrecht. C'était l'ouverture de Tannhäuser de Richard Wagner dans la version dite parisienne de 1861.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et nous allons retrouver une dernière fois Péléas et Mélisande, dont nous avons écouté plusieurs versions différentes, toujours sous la direction d'Engelbrecht. Et c'est une version que nous avons entendue lundi dernier, et je veux dire, ma version préférée dans celle que nous avons entendue, celle du couple Camille Morane et Suzanne Dancaux, rassemblés en 1952, le 29 avril 1952, presque 50 ans jour pour jour après la création de Péléas et Mélisande, le 30 avril 1902, rassemblés donc au Théâtre des Champs-Élysées. Et nous allons retrouver toujours avec le chœur et l'orchestre national dirigé par Engelbrecht dans un extrait qui correspond, me semble-t-il, à cette déclaration de Debussy. J'ai voulu que l'action ne s'arrêtât jamais, qu'elle fût continue, ininterrompue. La mélodie est antilyrique, elle est impuissante à traduire la mobilité des âmes et de la vie. Je n'ai jamais consenti à ce que ma musique brusquât ou retardât, par suite d'exigences techniques, le mouvement des sentiments et des passions de mes personnages. Elle s'efface dès qu'il convient qu'elle leur laisse l'entière liberté de leurs gestes, de leurs cris, de leur joie ou de leur douleur.
C'est le dernier soir, il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. J'ai joué en rêve autour des pièges de la destinée. Qui est-ce qui m'a réveillé tout à coup? Je vais fuir en criant de joie et de douleur comme un aveugle qui fuit l'incendie de sa maison. Il est tard, elle ne vient pas. Je ferai mieux de m'en aller sans la revoir. Il faut que je la regarde bien cette fois-ci. Il y a des choses que je ne me rappelle plus. On dirait par moments qu'il y a 100 ans que je ne l'ai plus vue. Et je n'ai pas encore regardé. C'est comme si j'emportais un peu d'eau dans un sac de mousseline. Il faut que je la voie une dernière fois jusqu'au fond de son cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit.
Péléas.
Mélisande, est-ce toi, Mélisande?
Oui.
Viens ici. Ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici, nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici, dans l'ombre du tilleul.
Laissez-moi dans la clarté.
On pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici, ici, nous n'avons rien à craindre. Prends garde, on pourrait nous voir.
Je veux qu'on me voit.
Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu.
Oui, votre frère dormait.
Il est tard, dans une heure on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard?
Votre frère avait un mauvais rêve. Et puis ma robe s'est accrochée au clou de la porte. Voyez, elle est déchirée. J'ai perdu tout ce temps et j'ai couru.
Pauvre Mélisande, j'aurais presque peur de te toucher. Tu es encore en haleine comme un oiseau pour chasser. C'est pour moi que tu fais tout cela. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Viens ici, plus près de moi.
Mariez-vous.
Je ne ris pas, ou bien je ris de joie sans le savoir. Il y aurait plutôt de quoi pleurer.
venus ici il y a bien longtemps. Je me rappelle.
Oui, il y a de longs mois. Alors, je ne savais pas. Ce soir, c'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours.
Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas?
Je dois te dire ce que tu sais déjà. Tu ne sais pas ce que je vais te dire.
Mais non, je ne sais rien.
Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu ne sais pas que c'est parce que je t'aime.
Je t'aime aussi.
Oh, qu'as-tu dit, Mélisande? Je ne l'ai presque pas entendu. On a brisé la glace avec des fers rougis. Dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes aussi. Depuis quand m'aimes-tu?
Depuis toujours. Depuis que je t'ai vu.
Sur la mer au printemps, je ne l'ai jamais entendu jusqu'ici. On dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement, comme un ange qu'on interroge. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu dis? Tu ne me trompes pas, tu ne mens pas un peu pour me faire sourire.
Non, je ne mens jamais, je ne mens qu'à ton frère.
Oh, comme tu dis cela, ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. On dirait de l'eau pure sur mes lèvres. On dirait de l'eau pure sur mes mains. Donne-moi tes mains. Oh, tes mains sont petites. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau avant toi. J'étais inquiet, je cherchais partout dans la maison. Je cherchais partout dans la campagne. Et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, je t'ai trouvé. Je ne t'entends plus respirer.
C'est que je te regarde.
Pourquoi me regardes-tu si gravement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir sous cet arbre. Viens dans la lumière. Nous ne pouvons pas voir combien nous sommes heureux. Viens, viens, il nous reste si peu de temps.
Non, restons ici. Je suis plus près de toi dans l'obscurité.
où sont tes yeux? Tu ne vas pas me fuir. Tu ne songes pas à moi en ce moment.
Mais si, je ne songe qu'à toi.
Tu regardais ailleurs.
Je te voyais ailleurs.
Tu es distraite. Qu'as-tu donc? Tu ne me sembles pas heureuse.
Si, si, je suis heureuse. Mais je suis triste.
Quel est ce bruit? Ferme les portes.
Oui, on a fermé les portes.
Nous ne pouvons plus rentrer. Entends-tu les verrous? Écoute, écoute. Les grandes chaînes. Il est trop tard, il est trop tard. Ce n'est plus nous qui le voulons. Tout est perdu, tout est sauvé. Tout est sauvé ce soir. Viens, viens. On tiendra comme un fou jusqu'au fond de ma gorge. Je l'attendrai, je l'arrêterai.
Non,
va-t'en,
non.
Il a tout vu. Il vous dira.
sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en ce qui me concerne, c'est frissons et larmes aux yeux en écoutant cette musique-là, chantée comme ça. Camille Morane en Péléas, Suzanne Dancourt en Mélisande en 1952 avec l'Orchestre National de la Radio-Télévision Française, dirigé par Désiré-Émile Engelbrecht. Extrait du Péléas de Claude Debussy. J'ai eu l'occasion, dans une précédente émission, de vous lire une lettre de Debussy qui témoignait du rapprochement entre les deux hommes. Et c'est même une sorte de confident qu'elle va devenir peu à peu Engelbrecht, comme en témoigne la correspondance de Debussy. Donc voici deux extraits. Une lettre du 26 mars 1915. « Mon cher Engel, ma pauvre vieille maman est morte hier dans l'après-midi à 1h30. Pour elle, c'est une délivrance. Pour moi, un dur chagrin. Bien tristement vôtre, Claude Debussy. Mes affectueuses pensées aux vôtres. » Et puis une lettre plus souriante qui commence ainsi. « Monsieur Engelbrecht est venu demander des nouvelles. » Ainsi parla Étienne, maître d'hôtel luxembourgeois dimanche dernier. Mais il n'était plus temps de vous rappeler. D'ailleurs, la maison est mauvaise. Ma femme, Chouchou, ont la coqueluche, sale maladie qui s'attrape plus que le vinaigre n'attrape mouche. Et je ne pense pas que vous auriez aimé importer la coqueluche rue Caulaincourt. Enfin, c'est la série La Noire et ma provision de philosophie est depuis longtemps épuisée. Alors je grogne désespérément. Heureusement, personne n'est là pour m'entendre, car ce n'est pas précisément joli. Des gens sur la voie font des travaux de ballast, rythmant leur travail de cris inarticulés. Si je ne deviens pas enragé, c'est qu'un Dieu compatissant veille sur moi. Seulement, j'en ai assez, assez, assez. Votre pauvre ami, Claude Debussy. Debussy, nous nous retrouverons à la fin de cette émission avec la mer, mais il n'y a pas que Debussy dans la vie d'Engelbrecht. Il y a aussi, par exemple, Maurice Ravel avec Ma Merloi, toujours en compagnie de l'Orchestre National.
Thank you.
C'était « Ma mère loi » de Maurice Ravel par l'Orchestre National de la Radio aux Diffusions Françaises, dirigé en 1955 par Désiré-Émile Engelbrecht.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et retour à la correspondance de Debussy avec Engelbrecht qui témoigne de leur rapprochement. En juin 1913, le chef d'orchestre s'apprête à diriger un concert Debussy. « Ce sera excellent », écrit le compositeur, mon cher Engelbrecht. « Et je vous remercie pour la je ne sais plus combien de fois de votre gentil dévouement. Faites chauffer les 50 choristes à feu doux. Je serai là mercredi à 4h. Mes bons souvenirs aux vôtres et amicalement vôtres. » Et petit à petit, eh bien, les témoignages d'affection se confirment. « Continuez à m'être bien respectueusement dévoué », écrit Debussy. « Vous ne saurez jamais assez combien cela me fait plaisir. Venant d'un artiste tel que vous, parmi cette bande de jeunes paltoqués dont vous connaissez encore plus que moi les qualités de cynisme. Tout de même, changez respectueusement pour affectueusement, voulez-vous, votre vieux dévoué Claude Debussy. » Et puis la guerre éclate, et cette fois-ci Debussy écrit sans filtre, en août 1914, « Cher D.E., nous n'avons pas bougé. La guerre a nettoyé Paris de tous ses métèques, soit en les fusillant, soit en les expulsant. C'est devenu instantanément un endroit charmant. Ne doutez pas que nous n'ayons beaucoup pensé à vous. Tous les jours, ma femme ou chouchou demandait « Où sont les Engels ?» Ainsi, quoique l'avenue des Cerisiers soit une bien jolie adresse, tâchez de revenir le plus vite possible. Votre présence est doublement indispensable. Ami plus citoyen égale joie. Toutes nos affectueuses pensées pour vous deux, avec l'amitié de votre vieux dévoué Claude Debussy. P.S. En 70, ils avaient Richard Wagner. En 1914, ils n'ont plus que Richard Strauss.
Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris, jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Nous n'avons plus de maison. Tout pris, jusqu'à notre petit lit. Bien sûr, papa est à la guerre, pauvre maman est morte. Avant d'avoir vu tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Noël, petit Noël, n'allez pas chez eux, n'allez plus jamais chez eux, bénissez-les.
De sa belle voix de poitrine, c'était Madeleine Gorge qui interprétait le Noël des enfants qui n'ôtent plus de maison sur ce texte vengeur et anti-allemand de 1915, composé par Claude Debussy et orchestré par Désiré-Émile Engelbrecht qui dirigeait ici l'Orchestre National, bien sûr, comme l'entendons tout au long de cette semaine. Alors, voici encore quelques extraits de cette délicieuse correspondance. Toute la correspondance de Debussy est passionnante et notamment ses lettres à Désiré-Émile Engelbrecht. « Cher Engelbrecht, mardi 1er février 1916. Il y a au jardin d'acclimatation un animal fort laid qui porte le nom d'adjudant-major. C'est un marabout. Je suppose qu'il doit être parent du vôtre. Autrement, je continue cette existence dans un rond de caoutchouc que vous savez. » Entre parenthèses, Claude Debussy luttait contre un cancer qui allait l'emporter 2 ans plus tard. On me fait espérer du mieux dans une quinzaine de jours, mais je n'ai pas beaucoup de confiance et le radium abuse un peu du droit d'être mystérieux. Si vous avez un moment, venez voir le pauvre invalide et croyez-moi, votre vieux dévoué, Claude Debussy. Autre lettre qui cette fois-ci est adressée le 10 septembre 1916. Vous êtes revenu, cher ami. Nous partons pour Arcachon demain soir. Grand hôtel, le Moulot. Arcachon, ma femme ne se guérira jamais en restant dans cette maison où la maladie, les ennuis ont tissé une atmosphère de malheur. Nous resterons à peu près un mois absents. Affirmer que ce voyage m'enchante serait exagéré. Enfin, je ne verrai plus ces deux sempiternèbres arbres bouchant obstinément l'horizon. Je n'entendrai plus les bons clairons et je reverrai l'Atlantique, qui est le père de toutes les mers. Et justement, de la mer, il en est question dans cette autre lettre de 1917 à Saint-Jean-de-Luz. Debussy écrit « Cher ami, ici vous n'aviez pas à vous excuser, notre départ a ressemblé comme toujours à une fuite. Enfin nous voilà dans ce délicieux pays basque où il y a tout ce qu'il faut pour être content si l'on ne traînait après soi cette vieille carcasse qui ne change que pour être davantage insupportable. Et il rajoute l'avantage de demeurer dans un endroit écarté où on n'entend pas les pianistes. Il est vrai qu'on ne voit pas la mer non plus. Et cela, je le regrette amèrement. » Dialogue du vent et de la mer, c'était le troisième et dernier mouvement de la mer de Claude Debussy, 1954, par l'Orchestre National, dirigé par Désiré-Émile Engelbrecht.
À réécouter sur francemusique.fr.